Et aujourd'hui, on vous emmène à Folembray, dans le département de l'Aisne.
Antoine Lee, rendez-vous, place du marché.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Vendredi, vous étiez avec Orlys Fez à Fort-Calquier en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et aujourd'hui, Cap au Nord, nous sommes à Folembray dans les Hauts-de-France. Cette petite commune compte près de 1400 habitants. Ici, on est au cœur de ce qu'on appelait la Picardie, un bout de France qui souffre d'une mauvaise image avec tous les clichés qui collent à la peau de ses habitants. Mais en grattant un peu, on y découvre beaucoup de richesses, tant sur le plan de l'environnement que sur le plan historique. Le château fort de Coucy, dans la commune voisine, surplombe les environs et nous rappelle l'importance de la région à l'époque médiévale. Folembray a aussi été marqué par sa verrerie, une industrie qui a fait vivre de nombreuses familles pendant plus de deux siècles, jusque dans les années 50, avant sa fermeture. Jean-Loup, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le patron du café La Thève Note, et justement, le nom de votre établissement, c'est un hommage à cette partie de l'histoire industrielle de la ville.
Oui, moi je tiens le bar tabac La Thève Note depuis 6 ans. La Thève Note, c'est une bouteille qui était fabriquée à la verrerie de Folembray, que je n'ai pas connue malheureusement, mais aujourd'hui c'est remplacé par diverses multiples entreprises.
Et cette bouteille, elle a fait la renommée de cette ville. On la trouve un peu partout en France.
Cette bouteille, elle devient rare maintenant. Oui, moi j'en ai une, j'en détiens une. Et c'est une bouteille, c'est un peu une méthode champenoise, qui est marquée VF, verrerie de Folembray.
Et elle a quelle forme cette bouteille ?
C'est comme une bouteille de champagne, avec le goulot crocheté comme une petite bouteille de champagne.
Et qu'est-ce qu'on mettait dedans, dans cette bouteille ?
Alors là, ils y mettaient ce qu'ils voulaient, après ça ne me regarde pas.
Vous, Jean-Loup, vous êtes natif de l'Aisne ?
Oui, moi effectivement, je suis natif de l'Aisne, je suis natif de Chauny, une ville à côté. Et j'adore cette région par son climat déjà, parce que c'est vrai qu'il pleut de temps en temps, bien sûr, mais nous on est habitués. Il y a des superbes cultures, les forêts, puis tout l'environnement.
Ben alors là, on est place du marché. Alors c'est un tout petit marché, hein, parce que là, c'est à la taille de la ville. Hein. Il y a deux commerçants, un boucher, un maraîcher. Bon, les gens, ils arrivent à faire leurs courses quand même ?
Bien sûr, parce que dans le village, tout est diversifié. De toute manière, vous avez une supérette, il y a une boulangerie, il y a bien sûr le bistrot. Il y a même un traiteur pour chiens, une pharmacie, des docteurs. On a tout, on est complet, un village complet.
En tout cas, Jean-Loup, votre joli village français et ses environs sont la preuve qu'il y a beaucoup de choses qui bougent ici. On est loin des clichés d'une région sinistrée et sclérosée. Il y a aussi des gens qui se démènent pour améliorer un quotidien parfois difficile. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission passée dans votre établissement, la Thève Note. On parlera de la ferme de Moyen-Brie où les détenus apprennent à retrouver leur liberté. Nous irons découvrir les splendides espaces naturels de la région et on s'intéressera à une école particulière qui aide les enfants décrocheurs en milieu rural. Mais avant, on écoute le choix musical de Jobaka, Yeli Yeli avec Tasousmi.
Tandis que je frappe le sol, je frappe le ciel de ma voix. Tasousmi, Tasousmi, Tasousmi.
Tasousmi, Tasousmi, Tasousmi.
Vous écoutez France Inter, rendez-vous Place du Marché et dans la petite ville de Folembray dans les Hauts-de-France. On est toujours sur la Place du Marché, on s'est posé à la terrasse du café La Thévenotte. Nous avons été rejoints par Éric de Villerocher et Jérôme. Bonjour.
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 On vous a invité pour nous parler d'un lieu étonnant, un endroit qu'on peut qualifier de prison sans barreaux. C'est la ferme du Moyen-Brie, située dans la commune voisine, à Coucy-le-Château, au Fric. Éric de Villerocher, vous en êtes le président, et vous, Jérôme, vous y êtes passé en tant que détenu, ou plutôt résident, c'est comme ça qu'on dit à la ferme de Moyen-Brie ?
Tout à fait, c'est ça qu'on dit, c'est bien résident.
Voilà.
Pourquoi on dit résident et pas détenu, Éric de Villerocher ?
C'est une ferme où des personnes qui sont condamnées viennent terminer leur peine. C'est un sas entre la prison et la liberté. Donc les gens ne sont pas des détenus, mais sont des résidents. Ils habitent ici et ils travaillent ici.
Pour autant, il y a des règles.
Bah, la seule règle qu'il y a, c'est qu'il y a un périmètre qu'il ne faut pas dépasser. Voilà. Après, le restant, on a une liberté, une grande liberté. On a Internet, on a une vie sociale avec tout le monde. On a une vie sociale aussi avec les encadrants qui nous prennent pour des humains déjà, parce que en prison, il faut pas rêver. On est que des numéros, mais que là, on ressent pas la prison, on va dire. On a un plaisir de vie, de reprendre le goût à vivre, de rapprendre à retravailler, tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup d'importance pour moi. Pour moi, ça m'a sauvé la vie, on va dire, parce que j'avais vraiment plus rien. Moi, la prison m'avait rien apporté. J'ai assumé les bêtises que j'ai fait, j'étais en prison, tout ça. Mais la liberté arrivait, j'avais plus rien, on va dire. On allait ouvrir les portes et on me mettait dehors, et qu'est-ce que j'aurais fait ? Et la ferme, on va dire, il y a une dame qui m'a sauvé la vie, parce que j'étais à l'informatique et elle m'a énormément aidé. Elle m'a parlé de la ferme de Moyen-Brie.
Quand vous étiez en prison ?
Voilà, que comme j'étais en prison, elle m'a dit que ça me servirait beaucoup, que ça te rapprendrait à vivre et à vouloir revivre aussi. Parce que la prison ne m'a rien rapporté et Moyen-Brie m'a rapporté énormément au niveau social, vie collective, apprendre à vivre à l'extérieur. Parce que pendant, je dis, pour 4 ans et demi, on est enfermé entre 4 murs et on est complètement perdu, on va dire. On est complètement perdu. On perd aussi la notion de travail aussi, parce qu'on ne sait plus travailler. Hein. Je veux dire, moi j'étais plombier chauffagiste pendant 20 ans. Et il m'a fallu presque une année complète pour reprendre mon métier, on va dire.
Cette dame, c'était l'ancienne directrice de la ferme ?
Oui, tout à fait. C'était une dame qui était magnifique. Pour moi, c'était un ange, on va dire. C'est elle qui m'a sauvé la vie, on va dire.
C'est beau ce que dit Jérôme.
Ah oui, oui. Mais il faut savoir que sortir de prison, c'est très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui, surtout quand vous êtes seul, que vous n'avez pas de famille, que vous avez perdu votre boulot, etc., se retrouver libre du jour au lendemain, si vous n'avez pas de solution, c'est très angoissant. Et donc des lieux comme la ferme de Moyen-Brie permettent à des personnes, justement, de préparer la sortie. Voilà, de trouver un logement, de chercher un emploi, de réapprendre la liberté, de réapprendre, comme dit Jérôme, le vivre ensemble, de vivre avec d'autres, de réapprendre à travailler, etc. Et c'est ce que permet la ferme de Moyen-Brie.
Jérôme, Éric de Villerocher évoquait le vivre ensemble. On perd cette notion-là en prison ?
Alors la prison, vivre ensemble, ça n'existe pas. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a toutes sortes de personnes. Et il y a des gens qui sont hyper dangereux, on va dire, en prison, parce que bon, on est tous mélangés, on va dire. Mais on reste toujours en arrière. Ça veut dire qu'on reste toujours un peu enfermé pour éviter de voir des gens qui pourraient nous influencer en mal, plus en mal qu'en bien. Parce que bon, il faut pas rêver, il y a quand même pas mal de problèmes en prison. Et ça fait énormément peur d'être en prison, on va dire.
Vous, Jérôme, comment vous avez atterri à la ferme ? Quelle est votre histoire ?
Bon, j'étais en prison, j'ai assumé, j'ai fait des bêtises, j'ai assumé.
Vous avez pris quelle peine ?
J'avais pris 8 ans de peine et j'ai fait que 4 ans et 4 ans et demi et 6 mois à la ferme. Moi, j'avais plus envie de vivre. Moi, mon but, c'était sortir de la prison, je me mettais une balle et c'était fini. Ma vie était complètement gâchée, on va dire. J'avais tout perdu. Hein.
Vous aviez pensé à ça ?
Ah ouais, moi, c'était mon but. Hein. C'était mon but, mon but. Et j'ai rencontré cette dame qui était Anne-Marie, on peut dire Anne-Marie.
Votre ange ?
Ouais, c'est ça. Et on avait discuté à l'informatique. Elle me dit « Oh, t'avais le profil pour aller à la ferme ». Moi, je dis oui, on sent plus, mais j'ai pas fait de papier, j'ai pas fait des démarches, j'ai rien fait. Et c'est Madame Perry qui a vraiment fait les démarches avec l'ASPI pour dire, bon, lui, il faut qu'il...
L'ASPI, c'est quoi, Eric de Villanchet?
Alors, dans les prisons, il y a des conseillers d'insertion et de probation, voilà, qui sont là pour accompagner les détenus. Et donc, ce sont souvent des personnes qui peuvent orienter vers la ferme. Les personnes qui semblent adaptées à ce genre de lieu. Quoi.
Comment est né cet endroit ?
Ah, ça, c'est une belle histoire. C'est toujours des aventures humaines. La ferme de Moyen-Brie a été créée en 1990. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Hein, c'est pas un projet nouveau. C'est Jacques et Geneviève Pluvinage qui ont racheté cette ferme-là quand Jacques a pris sa retraite. Il était ingénieur agronome. Et à l'origine, ça n'avait rien à voir avec la prison. C'était une ferme qui était inoccupée, qui était plus en activité. Et le principe, c'était d'être un lieu d'accueil pour les gens qui étaient à la rue, qui savaient pas où aller, avec quelques principes simples, qui sont toujours des principes qui fonctionnent aujourd'hui, qui sont forts pour nous. Le premier principe, c'est que si tu viens ici, eh bien, on travaille ensemble.
Pour une réinsertion réussie.
Oui, tout à fait. Et puis un deuxième principe qui était de dire, c'est qu'on vit de ce qu'on produit. C'est-à-dire, on n'est pas dans l'assistanat. Si tu veux quelque chose, eh ben, il faut que tu fais ce qu'il faut pour l'avoir, quoi.
Et comment ce lieu a été rattaché aux détenus ?
Alors, Jacques Pluvinage était en même temps visiteur de prison. Et donc il a rencontré un certain nombre de personnes en prison. Et lorsque ces personnes ont été libres, ces personnes-là savaient pas où aller. Et c'est comme ça qu'il y en a une personne, puis deux, trois, quatre personnes qui sont venues comme ça à la ferme. Mais ils étaient libres, ils avaient fini leur peine. Il y en a eu tellement qu'à tel point que l'administration pénitentiaire s'est un peu inquiétée en se disant qu'est-ce qui se passe là-bas. C'est bizarre, il y en a pas mal qui y vont. C'est pas une secte, c'est pas un truc bizarre, etc. Et ils ont décidé de venir inspecter, un peu contrôler la ferme de Moyen-Brie. Et puis ils ont été emballés par ce qu'ils ont vu. C'est l'administration pénitentiaire qui a demandé à Jacques Pluvinage si, plutôt que d'accepter des gens qui sortaient de prison, s'il accepterait d'accueillir des gens qui sont encore sous écrou, mais qui n'ont pas terminé leur peine, pour préparer la sortie. Qui sont en fin de peine. Et c'est comme ça qu'au début, il y a eu une convention avec une personne, deux personnes, etc. Et aujourd'hui, nous avons une convention avec l'administration pénitentiaire pour accueillir 20 personnes maximum. Voilà.
Jérôme, vous êtes resté combien de temps à la ferme ?
Moi, j'ai resté 6 mois à la ferme. Moi, j'étais 6 mois magnifique parce que au début, moi, la ferme, ça m'a fait drôle parce que quand je suis arrivé, j'ai vu des fleurs et c'est un truc qu'on voyait pas. On regarde les fleurs au moins un quart d'heure parce qu'on se dit, oh bah c'est beau, les oiseaux qui chantent, tout ça.
Et pour des choses aussi simples.
Aussi simples, mais vraiment très simples. Hein. Vous savez, un arbre en prison, vous voyez pas beaucoup d'arbres. Hein. Je sais même pas s'il y en avait. Nous allons, il y en avait même pas, on va dire. Et c'était magnifique, voir le milieu aussi. Puis l'amour des encadrants qu'il y a au niveau de la ferme, que aussitôt je suis arrivé, tout le monde était là, on discutait avec moi. C'était pour moi, c'était impressionnant parce que j'étais tellement renfermé envers moi, dans le plus profond de moi, que j'ai quand même m'a fallu un mois pour apprendre et puis à revoir confiance aux gens, on va dire, à mon entourage, on va dire. Et c'était énormément pour moi.
Vous aviez perdu confiance en l'autre ?
En tout, j'avais perdu confiance en travail, confiance en vie. Même à la société, parce que j'avais de la haine quand même, un peu de colère envers moi et en colère de la vraie société. Parce que c'était hyper compliqué. Je comprenais pas pourquoi que ça m'arrivait, on va dire. Il m'a fallu des années pour comprendre même ma peine, comprendre beaucoup de choses. Et les femmes m'ont aidé énormément parce que j'avais rien. Je suis arrivé à la ferme, j'avais même pas une valise, on va dire. Je savais pas quoi faire et j'ai fait une évolution avec tous les gens qu'il y avait à la ferme, on va dire.
Et qu'est-ce qui s'y passe dans cette ferme ? Qu'est-ce que vous avez fait qui vous a sauvé ? Vous avez utilisé tout à l'heure le mot « sauvé ».
Alors, qu'est-ce qui m'a sauvé ? C'est la relation qu'il y avait avec les encadrants qui discutaient. Dans les activités, c'est... Moi, je suis plombier chauffagiste. Il y avait beaucoup de maintenance à faire à l'époque. Beaucoup de soudure que je savais plus souder parce que j'avais 20 ans de soudure, mais j'arrivais plus à souder. Et j'ai fait beaucoup de portails, beaucoup de maintenance. Il y avait aussi de l'agriculture. Qu'est-ce qui m'a sauvé aussi, c'est la cuisine. La cuisine, après mon travail, Je faisais ça en bénévole. Je commençais déjà à faire du bénévole à la ferme. Parce que le matin, on travaillait et l'après-midi, on était libre. Et moi, je m'amusais à faire la cuisine tout le temps. On va dire le samedi, dimanche. Puis aussi les animaux. Les animaux, il y a les poules, par exemple. Rien que des poules, on était heureux à voir. Ah, les chèvres, n'en parlons pas. On avait des bébés chèvres qui étaient là. Pour nous, c'était magnifique. Ils avaient une relation avec des animaux qui était hyper agréable, on va dire.
Est-ce que vous avez retrouvé une part d'humanité que vous aviez perdue en prison, au contact de ces animaux, au contact de ces plantes ?
Alors, j'ai récupéré beaucoup d'humanité, mais j'ai perdu la vie sociale, familiale, on va dire. Parce que moi, j'ai un petit garçon que j'ai mis 10 ans pour le revoir, mais il y a une cassure quand même. Mais bon, il y a une évolution quand même. Après, il y a beaucoup d'évolution, on va dire, après.
Éric de Villerocher, vous travaillez beaucoup justement sur la restauration de ce lien familial. Alors, pour Jérôme, c'était compliqué peut-être avec son garçon, mais en tout cas, vous travaillez dur et fort pour que justement les détenus retrouvent un lien familial qui a souvent été perdu.
La reprise du lien familial est importante pour la réinsertion, c'est même assez fondamental, quoi. Et la ferme le permet. Dans les résidents qui sont à la ferme, beaucoup n'ont pas voulu que leur fils ou leur fille viennent les voir en prison parce que rencontrer son père au parloir, etc. Ça donne une image du père qui est quand même pas très positive.
Et ça peut être traumatisant pour l'enfant.
Et ça peut être traumatisant pour l'enfant. Donc, et par contre, recevoir ses enfants à la ferme, ça n'a rien à voir. D'abord, il y a 22 hectares, ils peuvent se promener sur l'ensemble de la ferme. Ils peuvent montrer à leurs enfants ce qu'ils font, le travail. Ils peuvent aller voir les petites biquettes, ils peuvent aller voir les poules. Ici, pour que ça soit la période des mises bas, il y a les chevreaux, etc. Donc, il y a tout un contexte normal, j'allais dire. La ferme, c'est un lieu normal qui permet de donner une image du père qui n'a rien à voir. Et au moins qui est valorisante. Donc ça favorise beaucoup le contact avec la famille.
On rappelle quand même que la prison conduit à 60% de récidive dans les 5 ans qui suivent la sortie. C'est contre ça que vous luttez.
Exactement. Si vous ne préparez pas votre sortie, il faut déjà être drôlement costaud hein, pour retrouver la liberté tout seul. Quand vous n'avez pas de logement, hein, vous sortez de prison, on vous ouvre la porte, vous n'avez pas de logement. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous retournez en prison. Au moins, en prison, vous êtes nourri et vous êtes logé. Pas bien, mais au moins, il y a ça.
Vous, Jérôme, vous l'avez constaté, ce que dit Éric de Villerocher ?
Éric, il a tout à fait raison. Le seul problème qui se passe, c'est que, vous savez, quand vous êtes en prison, vous avez fini votre peine, qu'est-ce qui se passe ? Ils ouvrent les barreaux ou vous mettent dehors.
Vous dites, vous êtes libre.
Oui, mais moi, j'ai vu des cas, j'ai eu des copains en prison, quand on s'est fait des copains, ils me disent, je reviens ce soir.
Il disait ça au moment où on leur ouvrait la porte pour qu'il soit libre.
Ce soir, j'ai rien, je reviens ce soir, qu'il me dit. Ils allaient braquer quelque chose et puis ils revenaient. Et c'est normal, hein, parce que vu qu'il n'y a personne qui nous aide à la sortie, comment vous voulez que les gens s'en sortent ? C'est impossible. S'il n'y a pas de la famille, si on n'a rien, on n'a rien, on va dire. Et pour vivre, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait pour manger ? Qu'est-ce qu'on fait pour dormir ? Si on n'a rien, c'est hyper compliqué.
La prison, ça abîme les gens. Moi, je vois les résidents, quand ils arrivent à la ferme, ils sont tous persuadés que ça se voit sur leur tête qu'ils sortent de prison. La prison, c'est le lieu de la méfiance. Il y a une sacrée hiérarchie qui existe en prison aussi, suivant les peines que vous avez effectuées. Donc tout ça, il faut le casser. Et tout ça, quand vous avez fait 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans de prison, croyez-moi, ça marque. Ça marque, il faut du temps pour soigner ces cicatrices-là, quoi.
Et est-ce que vous parvenez à avoir de bons résultats par rapport à la réinsertion des détenus qui passent chez vous ?
Ce qu'on sait, c'est que la récidive est beaucoup moins grande. On a un taux de 60% de sortie positive.
Et pourquoi on ne développe pas plus des endroits comme le vôtre ? Alors pourquoi la justice ne favorise pas l'émergence de ces endroits-là ?
Alors, il faut leur poser la question. D'autant plus que ça coûte beaucoup moins cher à l'État. Un détenu en prison, ça coûte 100, 110 euros par jour.
Et chez vous ?
35. Nous, on est payé 35. Voilà. Donc, il n'y a pas photo, quoi.
Trois fois moins, quoi.
Ouais, je pense que les juges ont du mal à envoyer des gens dans un lieu ouvert comme celui de la ferme. La personne qui veut s'évader de la ferme, c'est pas un problème. Il n'y a pas de barreaux, il n'y a pas de barbelés, il n'y a pas de mirador, il y a la porte, elle est ouverte. Donc celui qui veut partir de la ferme, il peut partir et on lui courra pas après. C'est sa responsabilité. Et c'est important que ça soit sa responsabilité. On a très peu d'évasion, hein, de toute façon. Mais quand vous avez fait 12 ans, 15 ans de prison et que vous êtes à 3 mois ou à 6 mois de la sortie, c'est pas très malin de s'évader parce qu'ils sont toujours tous repris.
Parce qu'en France aussi, on a cette culture que la prison doit punir, mais pas forcément réinsérer.
Oui, tout à fait. On met l'accent sur toujours sur la punition. Et la mentalité ambiante de la société est bien sur cette idée-là. Sans se rendre compte que si on ne prépare pas les gens à se réinsérer, eh bien c'est encore pire. En fait, on augmente la récidive. C'est une erreur, quoi.
Merci à tous les deux. On va vous emmener dans un autre lieu incroyable, ici à Folembray. C'est le jardin exotique. C'est un refuge pour de petits primates et quelques autres animaux. Laurie Venant en est le fondateur. Il recueille ces petits mammifères depuis 10 ans.
France Inter. Rendez-vous, place du marché.
Alors ici, il y a 16 espèces de primates pour 60 individus à peu près. Majoritairement des primates d'Amérique du Sud. Et quelques primates africains comme les talapoins. Alors voilà, là on peut constater qu'il y a un petit groupe de Wisitia pinceau blanc. En fait, c'est une espèce de primate qui vit habituellement en Amérique du Sud. Et ces animaux nous ont été confiés en fait par les autorités suite à une saisie.
Quel est le but de ce jardin exotique ?
Le but, c'est déjà d'accueillir ces animaux qui sont saisis en fait et de les accueillir dans de bonnes conditions. Voilà, avec un axe prioritaire, c'est le bien-être animal. Alors nous, on est une association, on n'a pas de gros moyens financiers. Les gérants de l'association, on a tous une activité professionnelle.
Maintenant, vous faites quoi ?
Alors moi, je suis infirmier dans la vie active. Voilà. Donc je travaille la nuit dans un service d'urgence et la journée, je fais ça. Et ben nous, on est toujours sur la débrouille pour accueillir ces animaux-là. Donc là, à l'enclos de gauche, on a d'autres primates. En fait, ce sont des prosimiens, c'est-à-dire des lémures makikata, qu'on retrouve de façon endémique sur l'île de Madagascar. Et ici, on a un groupe de 5 individus, dont certains, ce sont des plans d'élevage. D'autres, ce sont des animaux qui ont été saisis, notamment on a Mabrouk, qui est un mâle, qui a été saisi dans un cirque dans les Pyrénées il y a quelques années. Et sur la droite, après, on a encore des singes écureuils. Donc là, c'est des petits primates qui ont été saisis chez des particuliers qui étaient détenus illégalement. Il y a le petit mâle Samy qui vivait avec 7 chihuahuas dans une salle à manger. Voilà. Donc il a développé certains comportements anormaux, ce qu'on appelle des stéréotypies. Donc on travaille au quotidien avec ces animaux-là, leur faire de l'enrichissement de milieu, etc. pour atténuer tous ces troubles en fait, qu'ils ont développés.
D'ailleurs, il lui manque un bout de queue.
Oui, on a dû le faire opérer à 3 reprises et lui faire amputer des vertèbres parce qu'il se rongeait tout le temps la queue en fait. Et donc en face, sur l'enclos de gauche, on a des talapoins, donc c'est une espèce africaine. C'est des petits primates, c'est le plus petit primate africain en fait, hein, qui fait 1 kg adulte. Là, on a 2 mâles et ces animaux-là ont été saisis sur les marchés espagnols.
Mais c'est-à-dire sur des marchés, c'est-à-dire ?
Des marchés ouverts comme des marchés chez nous, ouverts à tous en fait, tout simplement. Il y a des gens pour générer un peu d'argent, pour attirer du public. Voilà, ils accrochaient ces animaux-là avec une petite robe et une laisse sur un orgue à musique pour récupérer de l'argent en fait, tout simplement.
Durant l'été, comme en ce moment, vous ouvrez les portes de votre jardin exotique tous les jours. C'est l'occasion de faire de la sensibilisation auprès du public ?
Voilà, exactement. Alors nous, quand on ouvre nos portes au public tous les après-midi, on a la soigneuse animalière qui a un micro, comme vous, et qui, avec une enceinte, et qui propose une animation pédagogique au public, et qui présente l'espèce, la structure où sont hébergés les animaux, et voilà, parce que comme vous dites, un message de sensibilisation pour la préservation des espèces, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En l'occurrence, il y a toujours un message qui est passé qu'il ne faut pas acquérir ce type d'animaux à titre privé, et quels sont les gestes simples qu'on peut mettre en place pour pérenniser et sauver ces espèces dans le milieu naturel, parce qu'on est tous un peu plus ou moins responsables du déclin de la forêt tropicale en fait.
She sells everything, pay to see anything just to keep her free from the hustle of the streets. She left the church a long time ago, said they couldn't teach what they did not know. That's when she lost her virginity. And now she's pimping every motto, from New York to LA. Ask her why she do that thing. She says it's
Avec Born to Die.
Rendez-vous place du marché. Antoine Lee sur France Inter.
Vous écoutez France Inter, c'est Rendez-vous place du marché à Folembray dans l'Aisne. On a quitté le marché quelques instants pour se rendre sur la commune de Pierrepont pour découvrir un endroit magnifique, incroyable. On tenait vraiment à venir ici en compagnie de Loïc Léglise. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc chargé de mission territoriale pour le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France. Ici, on est où précisément ? On est dans les marais, là.
Oui, tout à fait. Là, on est au cœur des marais de la Souche, hein, au nord-est de l'An. Donc, c'est des marais qui s'étendent sur 3500 hectares. Hein.
C'est énorme.
Oui. Donc, ils s'étendent sur à peu près 7 communes. Hein, et là, on est sur la commune de Pierrepont, sur des parcelles communales que gère le conservatoire au sein des marais Saint-Boétiens.
C'est incroyable hein, comme décor, là. Il y a du vert partout, et là c'est beaucoup donc des marais, c'est étonnant, ils ont l'air d'avoir tous la même forme, des formes rectangulaires bien précis.
Oui, en fait c'est lié à l'histoire du marais, en fait dans le marais était exploité pour l'exploitation de la tourbe, entre 1850 et 1930.
C'est quoi la tourbe ?
Donc la tourbe en fait, si vous voulez, c'est de la matière qu'on retrouve dans le sol, sur les tourbières, qui n'est pas décomposée, parce que en fait c'est gorgé d'eau, donc cette matière-là n'est pas décomposée. On peut la découper, hein, c'est ce que faisaient avant les anciens, on la découpait avec des outils, on faisait des pains.
Des pains, des espèces de cubes des rectangulaires.
Exactement, comme une brique en fait, ou des briques, hein, voilà, exactement, comme une brique, qu'on découpait dans le sol, on mettait ça sur le côté qu'on faisait sécher durant l'été, et après, c'était utilisé pour que les gens se chauffent et puis pour l'industrie en fait.
C'est beau, hein, ici, c'est calme. Hein. On est loin de la vie, de la civilisation.
Oui, c'est très, très apaisant. On est au milieu d'un paysage, d'une mosaïque. Hein. On voit qu'il y a des milieux un petit peu ouverts, des prairies, il y a des zones de marée avec des herbes hautes, hein, le roseau coupant qu'on appelle par ici, hein, qu'on a devant nous.
Pourquoi roseau coupant? Parce qu'il est vraiment coupant.
C'est ça. Quand vous le prenez à rebrousse-feuille, en fait, il a des toutes petites dents et il est très, 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 très coupant. Et d'ailleurs, c'est une des espèces assez rares dans le marais, hein, c'est le marisque qu'on a devant nous, qu'on retrouve sur les ceintures comme ça, c'est une ceinture des temps. Quoi.
On continue à s'enfoncer dans le marais.
On va peut-être distinguer l'autre outil qu'on utilise pour entretenir les marais, c'est la gestion pastorale. Donc on travaille avec des éleveurs locaux, hein, on remet en place des pratiques qui étaient réalisées par les anciens sur le marais. Donc on remet des bêtes dans le marais, donc là avec des races assez rustiques, hein, c'est ce qu'on recherche, adaptées au marais.
Quoi comme bêtes par exemple?
Donc là c'est des bovins, donc c'est des Highland Cattle, hein, donc c'est des vaches de race écossaise, hein, qui ont des grandes cornes et des grands longs poils qui sont adaptés à ces types de milieux-là. Donc là c'est un éleveur local qui a mis ses bêtes dans le marais. Donc on définit avec lui les périodes sur lesquelles il les met, et puis elles vont entretenir, elles vont brouter et consommer tous les petits ligneux afin de maintenir, de nous aider aussi à entretenir ce marais-là. C'est un moyen de gestion écologique. Donc en fait, on fait d'abord des travaux qui peuvent être mécaniques pour réouvrir, parce que bon, c'est pas des broyeurs, des débroussailleuses, mais on fait des gros travaux, et après derrière on met les vaches qui maintiennent ces milieux-là. En entretenant ces milieux-là, elles assurent le maintien de ces milieux-là ouverts, qui permettent à tout un tas d'espèces de se développer.
Loïc Léglise, vous travaillez pour le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France. En l'occurrence, vous avez en charge le département de l'Aisne. Quel est votre rôle, votre objectif ?
Eh bien, en fait, c'est de monter des partenariats avec des communes ou des propriétaires privés afin de préserver, de sauvegarder des espaces naturels, soit qui sont en déclin ou où on a des menaces sur ces milieux-là, où la faune et la flore est en train de disparaître et menacée. Donc on essaye de monter des partenariats pour mettre en place des actions de protection sur ces milieux-là. Mais ce ne sont pas des mises sous cloche, c'est-à-dire qu'on travaille avec légalement tous les usagers qu'on pourrait trouver sur ces milieux-là. L'idée, c'est de trouver un consensus pour que tout le monde s'y retrouve. Et derrière, il y a un gros volet que met en place le conservatoire, c'est la sensibilisation et la valorisation.
Voilà, on est au bord là, du marais. Là. C'est beau, hein. C'est reposant, franchement. Là, on voit... C'est quoi, c'est des nénuphars?
Tout à fait, ouais, c'est des nénuphars blancs. On en prend plein les yeux avec le reflet du soleil sur le plan d'eau. Les roseaux qui sont sur la lisière de l'étang, une petite brise comme ça sur les roseaux, c'est dépaysant, c'est relaxant, ça fait du bien, quoi.
Bon, on va faire une sieste.
Oh, ben, on est à l'ombre, en plus, sous un boulot, donc on serait pas mal, ouais. On aurait dû amener les transats.
Parmi les partenaires avec qui vous travaillez, il y en a certains qui sont assez étonnants, comme l'armée de terre française.
Oui, effectivement, on a dans l'Aisne, on travaille avec le ministère des Armées pour la gestion du camp, pour la gestion écologique du camp militaire de Sissonne, qui se trouve à quelques kilomètres de Pierrepont. Et effectivement, on accompagne le ministère des Armées pour la prise en compte du patrimoine naturel sur le camp. Donc, on les accompagne pour qu'il y ait un consensus et un équilibre entre l'activité militaire et la préservation des milieux naturels.
Et c'est quoi ce camp ?
C'est un camp qui est spécialisé en entraînement en zone urbaine. Hein. Donc il y a des aménagements qui ont été faits au cœur du camp pour que les unités, les régiments puissent venir s'entraîner en contexte urbain.
Ah, ils ont reconstitué comme une ville, quoi, comme un village.
C'est exactement ça. Et puis les soldats peuvent venir s'entraîner, faire des exercices pour être prêts si jamais il y avait besoin d'intervenir.
Qu'est-ce que fait un homme comme vous et vos collègues qui préservez et valorisez la nature sur un camp militaire? Quel est le lien?
Ben justement, sur ces espaces-là, en fait, ce sont des petits bijoux écologiques. Hein. Donc en fait, comme il y a très très peu d'activités humaines, hein, donc c'est des milieux qui sont très peu impactés et où justement on retrouve une diversité d'espèces qu'on ne retrouve plus en dehors du camp.
Et vous menez quel type d'opération sur ce camp, par exemple? Concrètement, ça ressemble à quoi ce que vous faites ?
Ben en fait, c'est un peu comme dans le marais. En fait, si vous voulez, c'est des milieux qui étaient entretenus et ouverts par le passé, qui se sont refermés, réembroussaillés. Donc en fait, sur le camp, ben, les principales actions qu'on fait, c'est on fait aussi des travaux de débroussaillage pour éviter que les pelouses, qui sont des milieux ouverts, se referment. Et une fois que ça s'est fait, on met en place des partenariats avec des éleveurs locaux où on essaye de mettre en place du pâturage sur le camp.
Ah bon ? Quelle bête !
Là, en ce moment, on a 1000 moutons sur le camp et une centaine de vaches qui contribuent à entretenir ces milieux-là.
Et donc, on peut croiser ces animaux avec des soldats, avec leurs fusils mitrailleurs, tirés à blanc, hein, j'imagine.
Oui, oui, c'est à blanc, bien sûr. Et en fait, tout le travail est là de consensus, c'est-à-dire que les espaces qui sont pâturés sont définis. Et les périodes également, en fonction de l'activité militaire. L'activité militaire étant prioritaire sur le camp, c'est un travail qu'on fait en amont pour définir telle période où c'est qu'on peut mettre tel troupeau, pour pas que ça vienne perturber l'entraînement des militaires, bien évidemment.
Et à votre connaissance, ces soldats ne sont pas gênés par les moutons qui bêlent ?
Non, non, on n'a jamais eu de retour dans ce sens-là. Non, non, il n'y a jamais eu de problème par rapport à ça.
Parce que pour la reconstitution du milieu urbain, ça serait un peu raté, hein.
Oui, oui, mais bon, non, là, c'est... Non, non, ça va, on n'a pas eu de point par rapport.
Bon, on continue à progresser, là, dans le marécage de Saint-Boétien. Et parfois, on ne soupçonne pas qu'on a ce trésor sous les yeux.
Ben oui, oui, c'est souvent ça, même localement, les gens ne perçoivent pas ça. Mais c'est là aussi la mission importante du conservatoire, de sensibiliser et travailler avec les écoles, le grand public, organiser des sorties, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est une des missions très importantes, notamment auprès des scolaires, parce qu'on sait que ça passe aussi à l'éducation à l'environnement, ça passe par la sensibilisation des jeunes. C'est vrai que c'est quelque chose où les gens sont assez fiers.
Ouais, ça donne une autre image qu'on peut avoir de cette région-là, du Nord, des Hauts-de-France, de la Picardie, enfin ce qu'on appelait la Picardie, l'Aisne. Ça offre une autre image. On casse un peu les clichés, quoi.
Oui, tout à fait, tout à fait. L'Aisne est un département très très sauvage. On retrouve une diversité de milieux, de prairies, de milieux de pelouse. Si vous allez tout le long du chemin des Dames, il y a tout un réseau de laris. On appelle ça les laris. Ce sont des pelouses sèches, hein. Et on retrouve ici, vous voyez bien, la diversité de marais. Donc c'est vraiment un département très surprenant.
Louis Téglise, on n'a toujours pas vu les vaches, elles sont bien cachées là, elles doivent être tranquilles à se reposer ou à s'occuper de leurs petits veaux. Nous, on va vous laisser faire peut-être une petite sieste et nous, on va retourner au marché de Folembray où on va retrouver un groupe de musique médiévale qui va aussi nous faire découvrir un plat, une spécialité d'ici. Et on va aussi parler d'une école particulière qui s'occupe des enfants décrocheurs de la région en milieu rural.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je
fume. C'était Pink Martini avec Sympathique, un titre sorti en 1997.
France Inter. Rendez-vous place du marché. Antoine Mie.
On est revenu à Folembray dans les Hauts-de-France, toujours au café La Thévenotte face au marché. Dans quelques instants pour l'apéro, on va goûter un plat typiquement d'ici, la rissole de Coucy, et on écoutera de la musique médiévale avec le groupe Tengri. Mais avant, on va s'intéresser à une école particulière avec vous, Catherine Coppens et Jean-Baptiste Noyac. Bonjour.
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 Jean-Baptiste Noyac, vous êtes le directeur de la Fondation Espérance Ruralité et le fondateur de cette école, le Cours Clovis, dans la commune de La Fère, dans l'Aisne. Et vous, Catherine Coppens, vous êtes la maman d'un garçon scolarisé dans cet établissement particulier. Jean-Baptiste Noyac, votre école est spéciale car elle reçoit des enfants qui ont décroché du système scolaire et qui viennent d'un milieu rural.
Oui, tout à fait. Entre autres, d'ailleurs, parce que ce n'est pas uniquement ce profil-là, mais on a, en effet, on accueille tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés scolaires. On a commencé en septembre 2017 avec 11 élèves, dont une grande partie, en effet, avait de grosses lacunes. Et progressivement, on a développé cette école. Aujourd'hui, on accueille 70 enfants à la rentrée prochaine. 70 enfants qui... en fait, ont des profils assez divers. Donc, il y a des enfants qui ont en effet été victimes de harcèlement, des enfants qui...
À l'école,
oui, tout à fait. Le harcèlement scolaire, c'est vraiment un fléau qui se développe partout, et y compris dans les zones rurales. Des enfants qui avaient aussi des grosses difficultés scolaires, et pas uniquement. Des enfants aussi qui ont plutôt des bons résultats, mais qui ne sont pas assez poussés dans des classes avec de grands effectifs, avec 30 élèves par classe. Donc nous, notre structure, c'est une petite structure avec... des petits effectifs, avec une relation assez familiale avec les familles, avec les enfants, avec des professeurs éducateurs, avec un suivi individualisé. Et tout ça, ça permet à ces enfants de reprendre confiance en eux et de maîtriser beaucoup plus les fondamentaux et de se développer comme cela.
On pense beaucoup aux enfants décrocheurs qui vivent en banlieue parisienne ou dans les grandes agglomérations, mais on pense pas forcément aux enfants dans le milieu rural.
Mmh. Oui, il faut avoir en tête que les difficultés scolaires, malheureusement, sont partout dans notre territoire. Aujourd'hui, vous avez 50% des enfants qui terminent le CM2 qui sont en difficulté de lecture, plus de 50% qui ont un niveau faible en mathématiques, donc ça ne concerne pas uniquement, malheureusement, les métropoles. Et vous avez des enfants, pour vous donner un chiffre, 9 des 10 départements les plus touchés par les difficultés de lecture en France sont en zone rurale, sont des départements ruraux.
Catherine Coppens, avant d'intégrer cette école, le cours Clovis, quel était le parcours de votre fils ? Quels étaient ses problèmes ?
Notre fils était en 5e, parcours normal jusque-là, à part qu'il a été harcelé au niveau du collège, de l'école publique.
Qu'est-ce qu'il subissait comme brimade ?
D'autres enfants, parce qu'il était gentil, timide et un peu renfermé, des brimades assez difficiles, et il n'a pas été pris au sérieux. On disait presque que c'était lui qui était le meneur, que c'était pas du tout le problème. Donc en janvier, on a décidé de le déscolariser parce que ça n'allait plus du tout, il s'en rendait malade pour y aller. On avait un problème même médical qui était apparu.
Lequel ?
D'eczéma, des pieds à la tête. Et puis, il n'arrivait plus à écrire. On ne pouvait même plus le relire sur ses cahiers, tellement il avait un blocage. Nous avons pris contact avec M. Noyac pour le cours Clovis pour un petit peu discuter du problème.
Et au début, comment vous perceviez cette école ?
Alors, honnêtement, on le percevait comme une secte.
Mais pourquoi vous pensiez ça ?
On se demandait d'où il sortait. Et puis, des parents nous en ont discuté après, comme quoi ils étaient très contents et leur gamin se sentait très à l'aise.
Jean-Baptiste Noyac, vous êtes loin d'être une secte, bien au contraire. Vous êtes une école aconfessionnelle et vous êtes hors contrat. Rappelez-nous ce que ça signifie, ce que ça implique.
En France, aujourd'hui, vous avez trois types de relations d'établissements scolaires. Vous avez les établissements publics, donc qui sont créés par la puissance publique. Vous avez les établissements privés, et dans ces établissements privés, vous avez deux types. Les établissements privés sous contrat, donc qui passent un contrat d'association avec l'État, et les établissements hors contrat qui n'ont pas de contrat et donc n'ont pas de financement public.
Et comment vous faites pour vous financer alors ?
Alors du coup, les financements sont d'origine privée, donc des entreprises, des fondations, des particuliers, des gens du territoire. Le vrai souci, en fait, qui motive la création d'établissements et le fait de rester sous contrat, hors contrat, pardon, c'est la possibilité ou non de choisir ses professeurs. Et nous, ce qu'on pense, surtout dans des projets comme celui-là, c'est que c'est très important d'avoir des profs qui soient motivés par le projet en lui-même, si vous voulez.
Il y a combien de professeurs éducateurs pour combien d'enfants ?
Aujourd'hui, il y a une équipe de 9 personnes avec le directeur pédagogique. Donc, vous avez 8 encadrants pour 70 élèves.
Alors, votre école est située sur la commune de La Fère, elle compte 3000 habitants, mais surtout, il y a 35% de décrocheurs et le chômage des jeunes touche 48% d'entre eux. La ville de Fère est emblématique des difficultés que l'on rencontre ici, en milieu rural ?
Oui, en tout cas, c'est une ville qui a beaucoup de difficultés. En fait, il y avait l'armée qui était dans ce territoire-là. Quand l'armée est partie, ça a fait un grand vide.
Ces territoires qu'on appelle la France périphérique, qu'a décrit le géographe Christophe Guillouis.
Exactement. Moi, je suis convaincu, si vous voulez, que le relèvement de la France périphérique, il passera bien sûr par des activités économiques et sociales, mais il passera aussi par l'école. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à former, à donner les armes à nos enfants aujourd'hui pour qu'ils soient en mesure de s'adapter au marché du travail de demain. Aujourd'hui, moi, j'ai des élèves qui veulent faire comme leurs parents, qui veulent être chauffeurs poids lourds, qui veulent être caissières, qui veulent être employés d'agences bancaires. Eh bien, beaucoup de ces métiers-là, avec l'intelligence artificielle et la robotisation, n'existeront plus demain. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait pour non pas les préparer à des métiers dont on ne sait pas ce qu'ils seront demain, mais leur donner les armes pour s'adapter.
Je tiens à insister tout de même sur le travail des professeurs. Notre fils avait un gros problème avec son souci d'écriture fine. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas relire ses cahiers tellement il avait un blocage. Et en 2 jours et demi de temps, je ne sais pas ce qui s'est passé, il était suivi chez l'orthophoniste et l'orthophoniste m'appelle le jeudi, il avait commencé le lundi, le jeudi matin en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé avec votre fiston puisque son écriture c'est inimaginable. Ah, j'ai écouté, en 2 jours et demi de temps j'ai pas fait Lourdes, j'ai pas eu le temps d'aller à Lourdes, mais voilà, c'est vrai que ça fait rire tout le monde, mais notre fils a une écriture magnifique sur son cahier.
Quel est le secret de ce miracle ?
Écoutez, ça, c'est vraiment le résultat des petits effectifs, c'est-à-dire que dans une classe de 30 élèves, celui qui ne suit pas, on n'a pas le temps de l'attendre, et du coup on lui donne un ordinateur, mais il perd cette habitude d'écrire. Donc ça c'est une première chose, donc nous on l'a fait écrire, on l'a attendu, et puis et progressivement il a en effet récupéré cette écriture. Alors à l'école, au collège, beaucoup, ils y vont avec la boule au ventre, ils ont peur de prendre des coups, c'est un peu la loi de la jungle, quoi. Et là, ils arrivent, en fait, dans un cadre où, il y a un uniforme, donc, en fait, tout le monde est à égalité sur les, on va pas se moquer de lui sur sa façon dont il est habillé et tout ça.
C'est un t-shirt blanc et un sweat bleu, hein. C'est pas un truc militaire, quoi.
Avec des costards et tout machin, mais c'est, l'idée, c'est vraiment de se dire, on est tous à égalité et on évite, du coup, les critiques et le harcèlement par ce biais-là.
Et le vouvoiement est imposé.
Le vouvoiement, généralement, partout, les élèves vous voient les profs. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aussi vous voyez les élèves pour les valoriser. Moi, je crois qu'il y a un vrai sujet sur le sentiment de dévalorisation de ces enfants dans la France périphérique. Aujourd'hui, quand ils allument la télé, les réseaux sociaux, les clips, etc., tous les modèles culturels qu'ils voient viennent des métropoles. La musique qu'ils écoutent, c'est de la musique urbaine. Et du coup, en fait, eux, ils n'existent pas culturellement, si vous voulez.
Est-ce qu'elle coûte cher, cette école, pour vous, en tant que parent ?
Non, parce que les calculs sont faits aussi par rapport au salaire de les parents. Mais non, c'est très abordable.
Combien, en l'occurrence, pour vous ?
Ça doit être 50 euros par mois que l'on verse. Hein.
Jean-Baptiste Noyac, comment vous avez eu l'idée de lancer cette école avec vos amis ? Vous venez de Paris, vous nous l'avez dit. Oui. Quand vous êtes arrivé ici, on vous a dit « mais vous êtes complètement taré ». C'est vrai qu'on peut se poser la question, ouais. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Non pas que vous soyez taré, hein, mais qu'est-ce qui vous a amené ici à la faire ?
En fait, je me suis occupé de développer des écoles un petit peu sur ce modèle-là, mais dans les zones urbaines sensibles. Et puis j'ai découvert un géographe qui s'appelle Christophe Guillouis.
On a parlé de la France périphérique.
Voilà, exactement. C'est le monsieur qui avait vu venir les Gilets jaunes 10 ans avant, grosso modo. Et j'ai lu son travail, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai cherché à le rencontrer, j'ai un peu discuté avec lui. Et en fait, je me suis dit, mais il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites aujourd'hui dans les banlieues pour le décrochage scolaire dont vous parliez. Mais finalement, la jeunesse de ces territoires périphériques, on en entend très peu parler. Et sans doute qu'on pourrait essayer d'imaginer des solutions pour elles. Donc voilà, je me suis dit, mais il faut qu'on tente quelque chose. Et puis, on a choisi l'affaire de manière un peu un peu clinique. On a choisi grosso modo le département, enfin la ville la plus déshéritée du département le plus déshérité, quoi.
Merci à tous les deux. Est-ce que vous connaissez la rissole de Coucy, Madame Coppens?
Et non, j'aimerais la découvrir.
Eh ben, on va vous faire ce cadeau. C'est une spécialité culinaire typique de la région et on va la découvrir maintenant car c'est l'heure de l'apéro. Bonjour Alexandre Mathieu.
Bonjour Antoine, donc je vous ai apporté les rissoles de Coucy qui nous ont été préparées par la boutique des terroirs et les chambres d'hôtes sur la Courtine à l'aide des boulangers, des anciens boulangers, monsieur et madame Lévesque.
Ça c'est la spécialité d'ici, hein. Vraiment c'est typique d'ici.
Ici, depuis le 12e siècle, on les retrouve et ça a traversé les âges, donc des chaussons frits et qui pourront être farcis de viande hachée, de veau principalement, mais également de porc, à laquelle on ajoute des gousses d'ail, des herbes, etc., etc., et doré à l'œuf.
Alors on va faire goûter à tout le monde pour déguster ce plat qui date de l'époque médiévale. Et on va rester justement à l'époque médiévale, mais cette fois pour parler de musique. Alexandre Mathieu, vous faites partie du groupe Tengri. Présentez-nous le reste du groupe. Là, ils sont deux, là. Vous avez chacun des noms de scène. Alors, il y a qui?
Alors, moi, mon nom de scène, c'est Alouette.
Vous jouez de quel instrument?
Donc, les percussions.
Et vous?
Merukuno, cornemuse.
Et vous?
Makori, cornemuse.
Et là, donc, cornemuse, percussion, ce sont des instruments que vous avez voulu le plus authentique possible.
Il faut savoir que tous les instruments qu'on utilise et les matériaux pour les costumes sont en bois, en cuir, donc cuir peau animal pour les tambours. Et on a choisi de garder l'esprit médiéval au sein des compositions. Et donc, nous, on est influencés par tout ça.
On va écouter votre morceau. Installez-vous. Voilà. Vous prenez vos cornemuses, votre tambour. On vous écoute. Merci beaucoup les Tengri, c'était formidable. Quand on parle de musique médiévale, on pense forcément à la France, à la Gaule, mais en fait la musique médiévale était évidemment internationale. Vous pouvez nous montrer un petit peu les influences de l'époque?
Avec la route de la soie, les échanges ne sont pas que des échanges de biens, pas juste du commerce, il y a aussi des idées qui transitent, il y a la religion, il y a la musique, et donc il y a de nombreux thèmes médiévaux et de richesses qui ont été apportées, mais qui venaient en fait des influences orientales.
Par exemple ?
Par exemple, on va vous faire un extrait.
Effectivement, on sent bien l'influence orientale. Il y a d'autres influences ?
Oui, tout à fait. Alors, donc nous, dans notre répertoire, on a des influences tantôt germaniques, tantôt même des pays de l'Est. Donc, par exemple, on a un extrait d'un thème serbo-croate qu'on peut vous faire entendre tout de suite.
Avec plaisir, allez-y. Merci Tengri, merci à tous, merci à Jean-Loup, le patron du café La Thévenotte, pour son accueil, merci à Anne Cohuette pour son aide, Christophe Imbert a réalisé cette émission, Raphaël Plusqueva l'a préparée avec l'aide de Julien Martin. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Demain, vous retrouvez Aurélie Sfèze à Figeac, dans le Lot, en Occitanie.